Le MAPIC, le salon international de l'immobilier commercial. Du 30 novembre au 2 décembre 2021, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator sur Radio Immo.
Bonsoir à vous qui nous suivez depuis ce matin en direct du Palais des Congrès et des Festivals de Cannes à l'occasion de l'édition 2021 du MAPIC qui se termine gentiment. Ça se clairsème un peu dans les allées, mais il y a encore un petit peu de monde et puis c'est pas terminé. Il reste encore deux jours, il va falloir tenir la distance. Et pour tenir la distance, eh bien, je vous propose de nous poser un petit peu, d'apprendre à être heureux avec celui qui a sans doute, peut-être, je l'espère, les clés du bonheur et qui va nous les donner. Bonsoir Emmanuel Mongon.
Bonsoir Jonas Hilberton.
C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes le fondateur de Happier World. Ça veut dire un monde plus heureux. C'est une belle promesse. Alors qu'est-ce qu'on y fait ?
Happier World, c'est plus de 30 ans de création et d'amélioration de lieux qui attirent toutes les générations. Beaucoup de familles et de seniors, en clair des parcs à thème au départ. Donc on conçoit des parcs de loisirs, des parcs à thème, ça c'est le cœur du métier parce que c'est des lieux très complexes, assez grands et qui attirent beaucoup de monde, donc très compliqués à faire mais qui fonctionnent très très bien, y compris économiquement, mais dont le but est que les gens passent une journée et qu'ils ressortent avec, en général, ils ressortent avec une mémoire de cette journée-là qui est exceptionnelle. Ils peuvent s'en souvenir 10 ans ou 15 ans après en disant « Oh là là, on a passé ensemble avec mes enfants, mes amis, mes grands-parents ». Vraiment une journée extraordinaire. Et certains reviennent tous les ans, et j'en connais même qui reviennent tous les mois.
Ce genre d'expérience, aujourd'hui, on veut l'associer au commerce. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, que vous êtes là aujourd'hui sur ce MAPIC, ce salon de l'immobilier commercial et du retail, alors que vous êtes, vous, un spécialiste du loisir. Alors, commerce et loisir, c'est une équation qui marche.
Pas encore, ça fait des années que le commerce aux États-Unis, ça fait quand même beaucoup de temps qu'ils ont essayé de faire des ponts entre l'industrie du commerce et du loisir. Et ça n'a pas forcément fonctionné, ça commence à venir maintenant. On a enfin des discussions, je ne parle pas que de nous, mais des gens de notre industrie. Moi, j'ai été très actif et président du salon professionnel européen des loisirs pour notre association mondiale, donc je représente plutôt l'industrie des loisirs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a enfin, d'après les échos que j'ai récemment, des discussions avec des foncières et des développeurs, des promoteurs de centres commerciaux ou d'affiliés qui comprennent enfin que la manière de créer ces ponts, c'est pas de nous imposer un modèle de location par mètre carré, et qu'on puisse vraiment parler de revenus, puisqu'on parle in fine quand même de revenus et de business, et les loisirs bien faits dans le type de choses que nous faisons sont très rentables, contrairement à ce que certains pensent, mais il ne faut pas nous mettre dans des mètres carrés, on ne vend pas des mètres carrés. Et ça, c'est une révolution pour le retail, pour le commerce, qui est très habitué à penser par mètre carré uniquement.
Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable et puis je vais peut-être même faire un raccourci un peu facile. Mais c'est possible de faire tenir le loisir dans un store. Je pense par exemple à tout ce qui est escape game ou réalité virtuelle. On peut le faire tenir dans un petit encart d'un centre commercial ?
Oui, alors il y a beaucoup d'activités ou de concepts qui tiennent. Alors, il y en a eu à l'époque, c'était des family entertainment centers. Et puis maintenant, on est plutôt activités virtuelles, etc. Donc, bien sûr, il y a des activités. Moi, ce que je vois, c'est que le problème, c'est que la rentabilité n'est pas forcément au rendez-vous pour les foncières, ou plutôt le rendement n'est pas au rendez-vous. Et donc, pour qu'il y ait un rendement, il faut qu'il y ait une certaine masse critique de propositions pour le public, notamment en termes de durée. Vous pouvez faire un escape game, etc., mais si le but, c'est que ça dure une demi-heure ou une heure, ça ne répond pas à la question, notamment des centres commerciaux dont le but c'est d'attirer du monde. Et là où les loisirs, et notamment les outils qui sont vraiment rentables, peuvent apporter quelque chose aux centres commerciaux, c'est d'attirer plus de public et de plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une vraie... On attire du public à 1h30, 2h de route, et c'est un vrai modèle différenciant pour les centres commerciaux qui peuvent attirer un public qu'ils n'auraient pas eu, notamment vis-à-vis de leurs concurrents, et qui vont du coup dépenser aussi dans les boutiques, de leurs centres commerciaux, donc des revenus additionnels, en plus du revenu des loisirs proprement dit. Mais pour que ces revenus fonctionnent, il faut qu'il y ait une durée de séjour qui soit un peu plus grande que simplement une demi-heure ou une heure. Un parc à thème, c'est 8 heures de visite, mais ça peut être 4 heures. Mais les personnes qui viennent vivre un moment de loisir, ça fonctionne mieux et c'est plus rentable s'il y a une relative durée, notamment parce qu'à ce moment-là, on peut jouer avec les choses, on peut faire évoluer dans le temps, on peut faire évoluer d'une année sur l'autre, on peut rajouter des nouveautés. Mais tout un système qu'on est très content de pouvoir expliquer aux foncières et aux promoteurs pour montrer comment ça marche. Mais il faut avoir une vue d'ensemble.
Mais alors, quand je vous écoute, j'ai l'impression que là, vous nous décrivez le modèle, finalement, du parc à thème, où l'on peut passer un bon moment, s'amuser, manger, dépenser de l'argent dans les boutiques. Alors, la combinaison idéale, c'est quoi ? C'est un parc à thème du shopping ?
Peut-être. Alors, le parc à thème, à l'époque de Disney, c'était qui est quand même le modèle qui s'est réparti, c'était ce qu'on appelait un pay one price, c'est-à-dire un parc à thème où vous prenez votre voiture, vous rentrez, vous payez pour la journée, vous restez et vous repartez le soir. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'autres types de modèles et de business et de loisirs qui sont beaucoup plus ouverts. Moi, j'ai travaillé pour des sites qui n'ont pas de porte, c'est-à-dire qui sont un peu comme un centre-ville, complètement ouvert, qui sont que du loisir. Et à ce moment-là, on est beaucoup, c'est plus complexe à faire, mais l'intérêt, c'est qu'on n'est pas en train d'imposer un seul modèle. Et du coup, les visiteurs peuvent faire des loisirs, des commerces dans un sens différent. On ne va pas placer les choses, d'ailleurs, forcément de la même façon que dans un parc à thème ou que dans un centre commercial classique. Donc, ce n'est pas une application d'un concept. Souvent, on nous dit, est-ce que vous avez un concept tout fait ? Surtout pas. Nous, ce qu'on fait, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que vous avez un site qui existe, et il faut qu'on arrive avec des solutions qui sont basées sur des choses qui ont prouvé depuis des décennies que ça marchait, ou récentes, mais qui sont des vraies preuves que ça fonctionne en termes d'attractivité et de rentabilité, mais qui sont faites sur mesure pour le site. C'est ça qui fonctionne. Et les gens ont de moins en moins, et nous on le voit encore plus récemment après le Covid, les gens n'ont plus envie d'avoir des choses standards qu'ils peuvent retrouver partout. Ils veulent quelque chose qui soit ancré localement, qui fasse peut-être intervenir des gens qui sont de la région. Et donc, ça demande un peu plus de travail de mise en œuvre par tous les parties prenantes. On n'est pas les seuls, mais donc l'ensemble des gens, ça. Mais c'est vraiment un esprit ouvert et une volonté de dire comment est-ce qu'on fait pour attirer du monde.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on parte sur le modèle des malls, comme on peut les trouver au Moyen-Orient, par exemple, où on peut passer une journée complète en faisant tout un tas de choses variées ?
Moi, je n'aime pas trop parler de modèle parce que au Moyen-Orient, par exemple, ils ont c'est intéressant, mais ils ont un souci, c'est qu'ils ont peu de population, donc peu de marché potentiel, et avec en face de ça, une volonté de faire the biggest, the largest, the ever. Et ça ne fonctionne pas. Enfin, par exemple, en Europe, on a des modèles qui sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus concrets, et où on prend des offres, mais je crois que la clé, c'est de parler de multiplicité. C'est-à-dire qu'on parle surtout pas dire qu'il y a un modèle ou deux choses à faire. À partir du moment où on commence à parler de 10 choses, des grandes et des petites, 50 choses, là, il commence à y avoir quelque chose qui fait que c'est pérenne. C'est vraiment pérenne et intéressant au niveau économique, mais surtout au niveau attractivité. Le but, c'est que les gens reviennent l'année prochaine. J'ai des clients et des sites qui existent depuis 80 ans, des clients que j'ai depuis 25 ans. Tous les ans, les gens reviennent avec des fréquentations tout à fait intéressantes. Et qui d'ailleurs sont intéressantes parce que ça ne dépend pas forcément ni de la météo, ni des crises. On vient de vivre Covid, donc bien sûr la plupart des sites dans notre industrie étaient fermés complètement. Mais dès que ça a réouvert, les gens sont venus. Au contraire, même plus qu'avant. Et comme il y a eu énormément d'efforts pour réduire les coûts pendant le Covid, pour faire extrêmement attention. Moi, j'ai deux clients qui ont eu le meilleur profit de leur histoire l'année dernière.
On est d'accord pour dire que attractivité et rentabilité ne s'opposent pas. Certains auditeurs pourraient se dire que pour faire attractif, il faut investir massivement et donc attendre un retour sur investissement qui sera très long. Ce n'est pas forcément le cas.
Non, je pense qu'encore une fois, c'est la variété qui compte. C'est-à-dire c'est un mix intéressant, intelligent de choses à différents niveaux. Il y a des choses qui sont très court terme, il y a de l'événementiel, il y a du service long terme, il y a des infrastructures. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que la rentabilité vient quand même par rapport à de l'immobilier, on va dire résidentiel par exemple, où on parle de petits noms, enfin pour nous de petits noms dans le loisir, on parle quand même de lieux avec une attractivité sociale importante. On parle quand même de milliers de personnes, de plusieurs centaines de personnes à un moment donné. Donc ça, c'est important. Il faut qu'il y ait une certaine attractivité en nombre de personnes pour pouvoir justifier les investissements qui sont, et d'abord les offres, justifier les propositions de loisirs et de divertissement. Et ensuite, rentabiliser l'investissement. Mais ça, je prends un exemple sur un site sur lequel on a travaillé là pendant la période de Covid, où on parle d'une fréquentation qui n'est pas très élevée. Donc tout le truc, c'est d'adapter en fait l'offre à cette fréquentation. Et il y a des choses très simples qui peuvent être faites. On ne parle pas forcément de choses extrêmement... Moi, je suis pas... Bien sûr, on fait des choses réalité virtuelle, etc. Mais ce n'est pas ça qui rend les gens le plus heureux, au fond. Les jeunes et tout adorent ça. Mais je ne pense pas que ça soit extrêmement pérenne. C'est beaucoup d'investissements qui vont être dépassés dans 2 ans, alors qu'il y a des choses qui peuvent être faites, qui sont beaucoup plus simples et qui fonctionnent, qui ont fonctionné depuis 20 ans et qui vont fonctionner dans 20 ans encore. Mais il faut les mettre au goût du jour, il faut les adapter. Je suis assez fan plutôt de toutes ces choses qui font que les gens se sentent plus heureux, mais plus simples.
Vous avez dit quelque chose sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est adapter l'offre à la fréquentation, donc déjà existante. Ça veut dire que finalement, on pousse les curseurs sur une expérience adaptée aux visiteurs déjà habitués avant d'aller en conquérir de nouveau.
Il y a deux types de sites. Je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout ce qu'on appelle du re-engineering, enfin du remodelage de sites existants. On ne parle pas tellement de construction de nouveaux outils. Et là, on part sur une fréquentation existante et on adapte. Je trouve que ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement de faire des grands projets en disant, regardez, on pourrait faire ça, mais plutôt se baser sur dimensionnons pour temps. Et ça, c'est ce qu'on a appris pendant le Covid aussi. C'est-à-dire que je pense à un projet spécifique, un client avec lequel on a travaillé depuis des années. Et pendant la période Covid, on a appris à justement réduire la fréquentation, mais du coup, on augmentait la dépense par visiteur, avec notamment de l'hébergement ponctuel, et qui a très très bien marché. Donc c'est pas une question d'avoir toujours plus de monde, c'est vraiment d'être en accord, d'être en harmonie avec les différents paramètres, et la fréquentation, le nombre de visiteurs est important, mais ce qui est important surtout, c'est à la fin quel va être le revenu. Et le revenu, c'est un nombre de personnes multiplié par une dépense par visiteur. Et la multiplication des deux ne veut pas dire qu'on peut faire beaucoup de visiteurs avec peu, mais on peut faire aussi moins de visiteurs avec beaucoup plus.
Avant de vous laisser repartir, Emmanuel Mongon, une dernière question. On a parlé de bonheur en début de cette interview. Vous avez la clé, la petite recette du bonheur ?
Non, moi j'ai... Par contre, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir ça comme focus. C'est-à-dire que je considère, depuis le temps qu'on est dans le domaine, que c'est pas uniquement les loisirs qui, bien sûr, qui font que les gens sont plus heureux. Il y a beaucoup de choses. Mais ce qui manque peut-être souvent, c'est que des organisations, des entreprises, et pas simplement des personnes qui font du développement personnel, mais qu'au niveau d'une organisation, d'une entreprise, d'un gouvernement, d'une collectivité locale, qu'il y ait une claire focalisation en disant, mais c'est quoi notre rôle au fond ? Qu'est-ce qu'on veut que les gens, que la population, que nos employés, que nos clients... Et au fond, nous, on prétend que, au fond, ce que les gens veulent, c'est être plus heureux. Et c'est pas à partir d'un certain niveau de confort, on a un toit, on est en bonne santé, on a à manger. Les études depuis 20 ans ont extrêmement bien prouvé au niveau scientifique. Et ça, c'est vraiment nouveau et extrêmement sérieux. Toutes ces études qui ont été faites, qui ont montré que c'est pas parce qu'on a plus qu'on est plus heureux. Donc à un moment, il va falloir dépasser le côté ce qu'on a. Et là, le retail vendait des choses, des objets, ce qu'on appelle nous des expériences, c'est-à-dire qu'est-ce qui font que les gens sont et deviennent et se sentent eux. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement différent et qui demande à ce que les organisations se disent, en fond, notre objectif, est-ce que ça ne serait pas ça ? Bien sûr, économique, premier objectif, mais deuxième objectif, c'est ça, c'est-à-dire de rendre les gens plus heureux. Et il n'y a pas de recette, c'est pas parce qu'on a dit ça On a simplement défini un objectif ou une vision. Mais après, il n'y a pas de modèle. C'est-à-dire, heureusement d'ailleurs, personne ne peut nous imposer en disant « Tiens, on va faire ça pour que vous soyez heureux. » C'est là où ça devient intéressant, c'est qu'après, il faut proposer des choses, il faut écouter, ça change tout le temps et les gens sont différents. Et c'est là où c'est passionnant. C'est qu'il y a une variété de possibilités, mais l'objectif est simple.
En voilà, une belle conclusion. Merci beaucoup Emmanuel Mongon d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Happier World. C'était un plaisir de vous recevoir pour terminer cette première journée au MAPIC.
Merci beaucoup, au revoir.
Quant à nous, on se retrouve dès demain matin, 10h, pour une nouvelle journée placée sous le signe de l'immobilier commercial et du retail. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les interviews de cette première journée en podcast sur notre site radio.imo, sur tous vos agrégateurs de podcasts habituels. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.
Le MAPIC, le salon international de l'immobilier commercial. Du 30 novembre au 2 décembre 2021 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator sur Radio Immo.